Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, le sermon sur la montagne. Cinquième partie, le formalisme religieux.
Notre sermon sur la montagne, alors on avait déjà vu les béatitudes, on avait continuer une autre partie des béatitudes, le sel et la lumière, la loi confirmée, le meurtre, le divorce, le caractère chrétien la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons parler du formalisme religieux. Alors, pour ce faire, eh bien, je vous propose que nous ouvrions toujours l'évangile de Matthieu, et au chapitre 6, et à partir du verset 1er. Nous allons faire cette lecture, quelques versets, où il est question de l'hypocrisie et du formalisme. Alors, voilà ce que je lis, ce que je partage avec vous. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues, et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette lecture et son commentaire. Dans le chapitre 5, le chapitre précédent, nous avons observé que Jésus oppose la fausse interprétation de la justice à la vraie justice, celle de Dieu. Je le redis, Jésus oppose la fausse interprétation de la justice avec une conception d'une loi humaine, et Jésus le dit bien, je le rappelle, vous avez appris qu'il était dit. Supposons que l'homme en fait comme il lui a plu de cette loi. Il l'a modifiée, il l'a altérée, il l'a augmentée, enfin il a fait comme il a voulu. Mais Jésus dit bien, moi je vous dis que. Donc ça c'est la vraie justice de Dieu. L'interprétation des hommes, et puis, ce que Dieu nous dit, ce qui revient à dire qu'une bonne interprétation, une bonne compréhension de la parole, eh bien, a la capacité de changer notre attitude et notre comportement, notre état d'esprit, notre mentalité, notre vie, dans la manière dont nous comprenons les choses et que nous les comprenons bien. On pourrait le dire et le décliner sous une autre forme. Il y a, dans ce que Jésus nous dit dans le chapitre 5, la lettre, et tout simplement l'esprit de la lettre. Et tout est dans l'art, finalement, de comprendre les choses comme Dieu veut que nous les comprenions. Parce qu'avec la même lettre, puis on peut faire beaucoup de choses. Je veux dire qu'on peut rester sur tout simplement eh bien, ce qui nous est dit, d'une manière souvent arbitraire, rigide. Mais Jésus veut que nous dépassions. Et c'est pourquoi, justement, eh bien, le Nouveau Testament et entre autres les Béatitudes élèvent et spiritualisent les choses. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Dans le chapitre 6 que nous entamons maintenant, le Seigneur met en contraste les actes de justice, ceux qui ont de la valeur, non au regard des hommes, mais aux yeux de Dieu. Et maintenant nous allons partir sur une autre piste. Qu'est-ce que Dieu pense? Finalement, quand je fais le bien, quand je pratique, eh bien, des actes qui sont dans la loi. Mais comment je le fais? Pour quelle raison je le fais? Quelle est ma motivation pour le faire? Alors nous avons deux exemples significatifs de l'esprit chrétien, l'aumône et la prière. C'est ce que nous avons lu il y a un instant. L'aumône et la prière, en somme, deux exercices qui, chez les authentiques disciples, doivent être en toutes circonstances motivés par leur cœur, et ça change tout, et attachés à la gloire de Dieu. Pas à notre gloire à nous, pas à la gloire d'un mouvement ou d'une église, d'une chapelle, tout ce que vous voudrez, ou à la renommée de ce que vous voudrez, mais à la gloire de Dieu. Jésus va donc dénoncer les dispositions égoïstes, parce que je crois que c'est le mot qui convient, dans des buts de récupération personnelle. Et ça touche les actes, finalement, eh bien, de la bienfaisance, de la justice, des actes cultuels, si vous voulez. Et naturellement, les choses sont dites ainsi pour que, si nous le faisons dans un état d'esprit qui nous ramène à nous-mêmes, c'est pas la peine de les faire. Parce que d'abord nous aurons notre récompense, on en va en parler d'ici quelque temps, mais ça ne sert strictement à rien, puisque Dieu est complètement absent de tout cela. C'est-à-dire pratiquer notre justice devant les hommes, mais pour en être vu, pour en avoir finalement des retombées pour notre propre compte. Dans Colossiens, je cite, au chapitre 3, il est dit « Tout ce que vous faites, et c'est l'apôtre Paul, vous l'avez reconnu, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Et ça, concrétise, là, ce que Jésus nous enseigne à partir de ces versets. Écoutez bien, je relis. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » On l'a compris. Jésus vise le formalisme religieux des pharisiens qui a pris la forme d'une habitude quasi machinale, peut-être même inconsciente, tellement les choses sont rentrées dans l'individu et il fait les choses, peut-être sans en mesurer toute la portée parce que ça devient quelque chose, une routine quelque part. Donc, je dis bien, même inconsciente, mais que Jésus qualifiera en quelque sorte d'une grotesque hypocrisie pour la simple raison que ce qu'ils font sous le couvert de la foi, sous le couvert de la piété, nous pourrions dire également, c'est pour être remarqué et en recevoir l'approbation et la louange. Et Jésus dira dans ce que nous avons lu, ils aiment à être. Et vous savez que la grande leçon qui est à tirer de tout cela, c'est qu'il est plus important d'être que de faire. Parce qu'on peut toujours faire, on peut faire, mais dans l'esprit de l'Évangile. Mais ce qui est important, c'est d'être. Donc, vous avez remarqué, ils aiment. Ils ont une propension à, finalement, un goût particulièrement prononcé à être où ils vont recevoir les dividendes de ce que, tout simplement, sur lequel ils ont misé. Dans le verset 2 à 4, nous allons poursuivre, il dit « Donc, et c'est un conseil, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et que ton père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a beaucoup de choses à dire. Où il est question de l'aumône ? C'est un beau geste. C'est quelque chose qui s'est fait ces derniers temps. On a parlé d'Haïti, on parle de support, de soutien, de secours. C'est l'aumône, en quelque sorte. On peut aider les gens de cette manière. Mais attendez, dans quel esprit les choses sont faites ? D'abord, il faut voir l'étymologie du mot. Aumône se traduit et peut se traduire par justice. Justice pourquoi ? C'est-à-dire que l'homme, ce que l'homme doit à son prochain, ce qu'il doit à Dieu et à lui-même. Et dans cette image de l'aumône, il y a quelque part quelque chose qui permet de vivre. Un geste qui va permettre de nourrir, de vêtir, de soutenir, de réchauffer, de réconforter, mais d'une manière très concrète, physique en quelque sorte. Donc, ça c'est la signification. Ce n'est que justice. Dieu nous donne pour que nous puissions entretenir notre vie. Mais si nous avons, nous pouvons aussi, dans un mouvement réel, sincère de notre cœur, donner à celui qui n'a pas et partager autour de nous. Donc, c'est une question de justice. Jésus s'exprime au sens figuré, et cela pour en relever la réalité, quand il parle de trompette et tout le reste. Donc, il veut souligner la réalité de quelque chose. Il utilise l'expression « sonner de la trompette devant soi ». C'est-à-dire que je tends la main vers quelqu'un qui a un besoin et je proclame que j'ai donné, pour que tout le monde le sache. Pour que tout le monde sache bien que, eh bien, c'est moi, et que l'on ne regarde pas tant celui qui a reçu, parce qu'il n'est pas très intéressant, mais qu'on me regarde moi parce que je suis quelqu'un d'intéressant. En quelque sorte, faire du bruit, attirer de l'attention ou l'attention d'autrui. Sonner de la trompette, ça s'entend quand même, hein. C'est un mot fort que Jésus emploie. On est loin de la discrétion, on est loin de la modestie, on est loin de l'humilité. Quand on fait du bien, on claironne, on peut le dire de cette manière, pour que chacun entende bien qu'il y a quelque chose qui a été fait, quelque chose de bien, et que l'on dise que c'est bien. L'aumône dépourvu de sentiments de compassion à qui l'on donne est un geste ostentatoire, méprisant, voire méprisant, accompli dans l'intention de passer pour un bienfaiteur, de passer pour quelqu'un qui va, eh bien là, accomplir quelque chose, dont le seul souci est l'amour de soi. De retourner à nous, vers nous, eh bien, une satisfaction, l'intérêt de sa propre gloire, et que l'on dise, ah, cet homme, cette femme, c'est quand même quelqu'un. Vous vous rendez compte? Il a fait un chèque de je ne sais pas combien d'euros. Et qu'on puisse le dire. Vous vous rendez compte? Alors, naturellement, ça va changer le regard, ça va changer l'attitude, ça va changer même le comportement de ceux qui sont autour. Et c'est là où Jésus, justement, est en train de souligner, parce que c'était quelque chose qui devait se pratiquer probablement couramment en Israël. D'ailleurs, on a cette petite histoire, vous allez vous en souvenir, de la pauvre veuve, hein. Deux petits sous, rien du tout, le nécessaire. Et puis les riches, qui font tomber d'une manière très très audible, hein, les pièces de bronze dans le tronc là de Jérusalem. Alors ça n'en finit pas, hein, ça dégringole, c'est presque la machine à sous. Alors on se dit, monsieur Intel, vous rendez compte? Aujourd'hui, il est allé au temple, il a fait ceci, il a fait cela. Alors, faut lui donner la première place devant, naturellement, hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas le laisser dans l'ombre. Alors, n'est-ce pas une monstrueuse usurpation? Je vais vous dire pourquoi usurpation. Vous allez comprendre. Si telle est la nature de la démarche dénoncée ici, certes, louable en apparence, parce que donner, louable en apparence, aux yeux de Dieu qui connaît les cœurs et qui connaît les mobiles du pourquoi, alors cette démarche est une démarche sans valeur et trouvera sa récompense auprès de celui qui en est l'inspirateur et qui tire les ficelles au fond du cœur de l'homme, l'exploiteur des mauvaises dispositions humaines au fond de tout individu, c'est-à-dire l'ego, la vanité et l'orgueil. Et vous savez, quel est cet instigateur, celui qui souffle et celui qui exploite? Eh bien, c'est l'adversaire, c'est le diable, tout simplement. Et pourtant, ça se fait dans un cadre religieux. Ça se fait dans un cadre qui pourrait paraître tellement recommandable. La récompense reçue en est donc la propre gloire ou la gloire propre, l'autosatisfaction et l'illusion d'être en accord avec Dieu. Or, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que cette attitude peut être machinale, elle peut être même aussi inconsciente par le fait que on a toujours fait comme ça. Mais Jésus est en train de bousculer là. Il est en train de remuer un peu les choses, il bouge les chaises en disant, ben attendez, vous pensez que vous faites ça pour ma gloire, mais vous ne le faites pas pour ma gloire, vous le faites pour vous. Vous le faites pour des raisons qui sont des raisons sombres et des raisons qui sont douteuses. Et il y a à ce moment-là comme une usurpation, comme un détournement. Et cette récompense, elle est pernicieuse. Cette récompense, voire est même une perversion en quelque sorte, c'est pour ça que Jésus a été très sévère, puisqu'il y a à l'évidence détournement de l'objet. Puisque c'était pour la gloire de Dieu. C'était aussi pour aider celui qui en avait besoin. Avec un regard de compassion et de dire, eh bien mon ami, tu ne vas pas mourir de faim, je suis là. Et tu ne vas pas mourir de faim, mais que ce soit pour la gloire de Dieu, que toi tu puisses remercier le Seigneur qu'il y ait une main secourable qui soit passée. Mais c'est pas celui qui va donner, qui doit en être finalement eh bien retiré tout à lui. Donc détournement de l'objet, c'est voler aux hommes aussi bien qu'à Dieu. Et là Jésus ne passe pas là-dessus. Vous savez que, je dois le dire, mais la religion a fonctionné comme ça. Oh, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais à travers tous les siècles... Enfin, vous avez peut-être certains mots à l'esprit, hein, je ne vais pas les dire. Mais quand même, alors connaît-on l'Évangile? Connaît-on l'Évangile dans notre monde, notre chrétienté? Et peut-être Jésus pourrait nous dire, mais connaît-on aussi quelquefois dans les dispositions de certains chrétiens évangéliques? Parce que la nature humaine est toujours la même, hein. Toujours pareil. Le livre des Hébreux, alors ne nous leurrons pas nous-mêmes, ne nous trompons pas comme l'apôtre le dit par de faux raisonnements, puisque dans Hébreux au chapitre 4, il est dit « Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui que nous devons, auquel nous devons rendre compte. » Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. On peut peut-être s'illusionner soi-même, on peut peut-être illusionner les autres, mais on ne trompe pas Dieu de toute façon. Il ne s'agit pas du geste lui-même, mais du mobile et de la raison pourquoi nous faisons les choses. Et c'est vrai pour l'aumône, c'est vrai lorsque nous avons quelques responsabilités, lorsque nous faisons le bien, lorsque nous rendons un acte de justice, lorsque nous prenons position d'une manière ou d'une autre, lorsque nous avons eh bien là un service à accomplir, que ce soit chanter, que ce soit prêcher, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Si c'est pour se mettre en avant, ça n'a aucune valeur. Rien du tout, ça ne sert à rien. Donc, en partant sur ce texte d'Hébreux, « Nulle créature n'est cachée », Dieu qui voit et sait tout parfaitement connaît la motivation qui anime l'acte. Et en la matière, le mot approprié qui qualifie le mieux cette attitude, c'est le mot « hypocrisie ». C'est de l'hypocrisie. Et le mot hypocrisie, donc, du grec, c'est, dans sa signification, un rôle joué par un comédien. Et on comprend que le crédit du christianisme en a pris un coup. Quand le monde a vu, quand le monde voit encore des chrétiens qui se comportent de cette manière. Alors, on peut toujours prêcher l'Évangile. On peut toujours dire, eh bien oui, vous savez, le Seigneur est bon, c'est magnifique, c'est merveilleux, croyez en Dieu, etc., etc. Ils vont juger sur pièce. Et ils se disent, non, si c'est ça, ben moi je préfère rester comme je suis. C'est un contre-témoignage. Voire même, c'est un vice qui consiste à affecter une vertu. Donc, c'est quelque chose qui dénature. C'est quelque chose qui est dénaturé. Qui perd sa valeur propre. Donc, je parlerai de vice, qui consiste donc à laisser supposer une vertu, un sentiment qui n'est pas réel. Et on fait comme. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas tant donc le comment qui importe, mais le pourquoi. Et la recherche des moyens et même des lieux, puisque Jésus le dit, les trompettes qui sonnent, être debout. Quand on est debout, on est quand même plus visible que quand on est assis ou... D'accord. Au coin des rues, c'est quand même des endroits publics. Comprenez? La multiplication des paroles, on le verra tout à l'heure dans la prière, etc., etc. Dans le but d'être vu et entendu, se faire voir et reconnu comme, et qu'on puisse dire, ah, ça doit être un vrai chrétien. Vous savez, moi je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, je suis passé déjà, moi j'ai déjà dépassé le stade, quand j'entends quelqu'un qui prie bien ou qui prêche bien, ça ne m'impressionne pas du tout maintenant. C'est pas ce qui fait la valeur de l'homme. Non, je le dis, c'est pas ça ce qui fait la valeur de l'homme. Moi c'est fini ça, terminé. Mon jugement il est tout autre. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui prêche bien et quelqu'un qui prie bien, c'est pas quelqu'un bien. Mais on a tellement entendu, on a tellement vu de comédiens, on a tellement vu de gens qui nous ont roulé dans la farine avec des paroles, avec ils avaient une élocution, ils avaient... Mais ça ne rentre plus en ligne de compte pour moi. Franchement. Et il faut que l'Église apprenne à juger, non pas sur les apparences, mais qu'elle juge dans le fond. Et ça, c'est important. Et c'est ce que Jésus nous enseigne ce soir. C'est important et essentiel. Je vous le dis comme ça, vous allez me connaître. Le deuxième point, être seul avec Dieu dans son intimité. Alors, on va lire le verset 6. Verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » On a parlé de l'aumône maintenant, on va parler de la prière. Parce que c'est quand même quelque chose, la prière. C'est, on peut dire, quelque chose de très important. Donc, on connaît la nécessité du besoin d'être seul dans la communion divine, être seul avec Dieu dans son intimité, puisque nous l'avons vu. Voilà. Donc, solitude bénie, quel que soit l'endroit, ce soit la chambre, ce soit le désert ou des lieux à l'écart. C'est ce que Jésus a un petit peu attiré ses disciples là, dans l'évangile de Marc au chapitre 6, me semble-t-il. Pouvoir, vouloir être seul en relation avec celui qui écoute, parce qu'il a fait la promesse d'être là où nous sommes, dans le secret de son intimité. Puisque, vous avez vu, les hypocrites, ils aiment à prier dehors, sur les places publiques, etc. Donc, on remet les choses en place, et Jésus est en train de recadrer, de recaler. Parce que celui qui est à l'écoute de nos prières, il a fait la promesse d'être là. Il nous donne sa présence. Nous rentrons dans son intimité et cet éloignement, je dirais momentané, si l'on veut, éloigné de tant et tant de choses qui peuvent distraire, déranger et fausser nos mobiles d'attention. Et nous avons des exemples d'hommes dans la Bible, Élisée à Sumène, qui se remet dans cette petite maisonnette et qui va prier à ce moment-là. Daniel à Babylone. Bon, il avait intérêt de se cacher parce qu'il savait, mais néanmoins, il le faisait quand même 3 fois par jour. Et puis, Jésus chez Jaïrus, dans le brouhaha, au moment de la résurrection de cette petite fille, de cet enfant. Dans la quiétude et dans le silence. Alors, lorsque vous priez, ne soyez pas comme tous ces gens qui pensent que, bon, on va faire des très très bien, très très fort, et avec une multiplication de toutes sortes de choses. Maintenant, nous allons voir le caractère même de nos prières. Au verset 7, il nous est dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Le caractère. L'exaucement, il faut bien se le dire. Peut-être avec la culture que nous avons eue, on nous a appris qu'il fallait, vous savez, le petit instrument là, que l'on déroule et que l'on fait glisser sous nos doigts. Vous ne connaissez pas ça si vous n'êtes pas né dans ce contexte, naturellement. L'exaucement ne dépendra jamais, au grand jamais, de la quantité ou débit de paroles prononcées, mais de leur qualité. Et cette qualité, c'est là que ça se passe. Dans la vérité. En esprit et en vérité. Les qualités requises, la foi, l'humilité, la persévérance, qui sont tout à fait opposées, dans le contraire, à l'inverse, des formules scandées. Des redites, des répétitions à en croire que Dieu est sourd et qu'il est toujours absent. Alors, comme il est on est convaincu qu'il est absent et qu'il doit véritablement avoir les oreilles bouchées, alors à ce moment-là, on passe et on repasse et on dit « Seigneur, voilà ». Là aussi, Jésus stigmatise le fait. Christianisme pitoyable, parce qu'on est très éloigné, naturellement, de l'esprit de l'Évangile. Christianisme qui a oublié la foi et les enseignements du Maître. Parce que les enseignements, ils sont clairs, ils sont noirs sur blanc. Même les prières bien formulées, si elles sont vides de sens, n'ont aucune efficacité, et les longues litanies non plus. Quelquefois, ça nous est arrivé même dans nos milieux, d'entendre des gens qui priaient bien, mais qui n'en finissaient pas. Et la réunion qui devait durer une heure, il y en avait 49 minutes ou 50 minutes pour la personne, et puis, c'est pas le cas à Saint-Nazaire. Hein. On a encore des temps morts dans nos temps de prière, vous trouvez pas ? On devrait se précipiter, on devrait véritablement... Mais moi je dis que, mes frères, il y a une interpellation. Quand on vient à une réunion de prière, vous allez me dire que je commence à vieillir et que je répète toujours la même chose. Mais une chose que je voudrais dire, c'est que quand on vient à la réunion de prière, on vient rempli. On vient pas pour se remplir. Et vous savez, une réunion de prière, sous l'onction du Saint-Esprit, eh bien, on a mille et un sujets à porter. Et on devrait se bousculer pour pouvoir, dans l'espace qui nous est donné, finalement, eh bien là... tous ensemble, se tourner vers le Seigneur. Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, mais vous, je sais que vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Mais comment faire ? Non, mais je vous le dis, mes frères et sœurs, parce que c'est ça, je crois, que ce qui est important. Ça. Et quelquefois, on se dit, mais il n'en finit pas, mais prenez votre place. Moi, quelquefois, on est venu me voir après une réunion en disant, oh là là, c'est encore lui, c'est encore elle, il a pris toute la place, et puis ce qu'on entend, ben, je lui dis, mais priez. Vous me dites que, eh bien, il prend toute cette place. Mais priez comme ça, vous prenez votre place, et puis lui, il aura un peu moins. Voilà. Mais c'est ça. Il y a des choses logiques, quand même. Alors après, on pourra toujours se plaindre, il y a ceci et cela. Mais bon, ben voilà, hein, prenons notre place, tout simplement. Il nous est dit dans un psaume, celui qui a fait l'oreille, n'entendrait-il pas ? Je crois, oui ou non, que Dieu est sourd ou il est véritablement quelqu'un qui entend. Une personne qui entend dans le ciel. Alors comment faire confiance à un Dieu ? Et c'est là justement où se pose le problème. Comment faire confiance donc à un Dieu qui attacherait plus d'importance au nombre de mots, à la sonorité ou à l'intonation des phrases de nos prières qu'aux dispositions de notre cœur ? Or, notre Dieu s'intéresse aux dispositions de notre cœur. Il y a un texte qui est assez comique. Il est plein d'humour, hein, moi, me semble-t-il. C'est quand Élie est sur le mont Carmel avec, vous savez, ses collègues, là. Enfin, c'est des collègues des prophètes de Baal. Vous savez, ils ont fait toute une... Vous connaissez l'histoire, hein ? Ah là là, c'est très intéressant, hein ? Alors, c'est dans Roi, chapitre 8, hein, simplement pour rappeler un peu la chose, au verset 25, il nous est dit ceci. Parce que c'est quand même assez fort, hein, comme histoire. Alors... Élie, il a juste une prière toute simple, hein. Et quand ça va, il l'aura faite, une prière de foi, une prière de confiance, tout de suite le miracle de Dieu, le surnaturel va venir. Mais eux, les autres, il nous a simplement dit, voilà, à un moment donné, Élie va leur proposer au prophète de Baal, il va leur dire, mais choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, et vous ne mettrez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez haute voix puisqu'il est Dieu, et il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix. Ils font ce qu'Élie dit. En fait, ils sont pas très très bien hein, dans leur tête. Hein. Alors, ils firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Je vous donne à juger la nature des prophéties qu'ils ont sorties à ce moment-là. Hein? Ça ne devait pas être d'une grande inspiration. Oui, mais voilà. C'est le correspondant de ce que nous avons vu. Et il est triste quelquefois dans nos réunions de voir ce genre de gesticulation, d'élucubration qui n'ont plus rien à voir avec l'esprit de notre Dieu. Au verset 8, « Je poursuis, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » Écoutez bien les paroles. « Comme les païens qui s'imaginent à force d'eux, alors ne le ressemblez pas, car il sait avant. Oui, j'ai pris quelques phrases comme ça. La question suivante s'impose donc, alors pourquoi prier ? À quoi cela sert-il ? Alors la réponse nous vient à l'esprit dans Matthieu 7, verset 8, où nous entendons Jésus nous dire et nous redire, autant que nous avons besoin de l'entendre encore, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Comme dans Jacques chapitre 4, verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, il y va fort hein, quand même, mais vous ne pouvez obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ou si vous demandez, vous ne demandez pas comme il faut demander, et dans l'esprit dans lequel il faut demander, selon les dispositions, les motivations qui sont celles de Dieu. Alors, c'est vrai que Jacques a raison, hein. Quand il y a ce genre de disposition au fond de l'âme, du cœur, on peut toujours prier, hein. Et quelquefois, moi je dis, mais alors à quoi ça sert ? Ça sert à rien, ça sert à un petit rassemblement occupationnel. Hein ? Oui, c'est ça, on s'occupe, c'est tout. Mais il y a autre chose à faire, hein. Moi me semble-t-il. La foi, on va dire deux mots sur la foi. La foi, disposition du cœur, suscitée par l'Esprit de Dieu et enracinée sur la parole et les promesses du Seigneur. On est d'accord là-dessus. N'a pas besoin de tout comprendre pour recevoir, d'avoir vu avant, d'avoir l'intelligence de certaines choses. La foi s'abandonne à la bienveillance, et je dis bien, je souligne à la bienveillance de celui qui tient parole. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il tient parole. Permettez-moi de le dire, Dieu ne ment pas. Il a dit une chose, c'est à nous de nous y attacher, et de dire, eh bien Seigneur, par ta grâce, je crois que ce que tu me dis, c'est la vérité. Et je m'attends à voir cette vérité s'accomplir dans ma vie. Quand la prière est l'expression de la recherche de tout notre cœur, en sincérité, c'est la récompense de la confiance. Il y a un juste retour. Je mets ma foi. Je n'essaie pas d'essayer de comprendre et de percer ces choses qui me dépassent, je vais les comprendre après. Souvent après l'exaucement, on se dit, mais pourquoi ? Oui, c'est vrai, pourquoi j'ai attendu ? Pourquoi, Seigneur, eh bien, les choses se sont passées de telle manière ? Je les avais pensées de telle autre façon, mais tu as suivi ce chemin. Alors si je me cabre et que je ne comprends pas ça, si je ne suis pas souple et flexible, je passe à côté. Hein. Ou alors, Dieu me dit, écoute, tu vas attendre encore un petit peu. Le « encore un petit peu » peut durer 40 ans, hein, comme dans le désert. C'est long. Enfin, si on n'est pas trop pressé. Je fais deux citations que je trouve pertinentes sur l'explication de la foi. Vous le savez, la foi est un don de Dieu. Quelqu'un a écrit, que vous avez entendu parler, « C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. » Ça se passe dans le cœur. Notre intelligence est un autre domaine. La foi est différente de la preuve. « Seigneur, je voudrais des preuves et je croirai après. Donne-moi quelque chose de sensible. Donne-moi quelque chose sur lequel je puisse me raccrocher, alors je vais croire. » Non, c'est autre chose. L'une est humaine, l'épreuve. L'autre est un don divin. Et c'est ce qui fait justement tout le mystère. Mais toute la beauté, toute la grandeur, parce que c'est divin. La foi n'est pas en notre pouvoir comme les œuvres de la loi, nous dit Pascal, parce que c'est une citation de Blaise Pascal. Je rappelle. La foi n'est pas en notre pouvoir comme les œuvres de la loi. Alors la loi, elle me met sur un plan qui est le mérite. Je fais bien, je suis un bon garçon, et puis là, voilà. Mais la foi, c'est autre chose. Je suis dépossédé à ce moment-là. Je me sens tout petit, humble, incapable, mais je sais que Dieu est pleinement capable, et lui, il rend l'impossible possible. Alors je me confie en lui. Voilà, tout simplement. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait cette citation, je ne sais pas si c'est Vinet ou un autre, un théologien du XIXe siècle. Il a dit « Croire en Dieu, c'est avoir une confiance absolue et inébranlable dans la vérité du témoignage de Dieu, même si ce témoignage n'est appuyé par aucune preuve. » C'est la marche de tous ces hommes. Hein. Abraham, allez, quitte ton pays, ta famille, et va où je te montrerai. Jaïrus, allez, c'est pareil. Viens et suis-moi, nous allons retrouver ta petite fille qui est mourante. Et Jaïrus suit. Et puis cet homme qui vient chercher là, dans une ville de Galilée, Jésus en disant, mon enfant est à l'extrémité, viens, descends avec moi. Jésus lui dit, oh, non, je ne descends pas, mais va, maintenant ton enfant est guéri. Aucune preuve. Vous cherchez des preuves? Eh bien, Dieu ne veut pas vous en donner. Tant que vous chercherez des preuves, Dieu ne nous en donnera pas. Il veut que nous fassions confiance à ce qu'il nous dit. Sur ta parole, je jetterai le filet, on l'a entendu la semaine dernière. Sur ta parole. C'est avoir une confiance et une assurance, je répète encore l'adjectif, inébranlable dans l'accomplissement des promesses divines, même si tout semble les contredire. Et quelquefois, c'est un peu notre chemin. C'est un peu notre voie. On dit, Seigneur, mais je comprends plus. Ça s'en va complètement à l'inverse de ce que j'avais pensé. Et c'est là où il nous faut véritablement être accrochés. Parce que si je me fie à ce que je vois, ce que j'entends, le négatif, mon environnement, tout s'écroule, le ciel me tombe sur la tête, alors à ce moment-là, eh bien, je ne vais pas aller très loin, hein, ma foi, elle va vaciller, elle va chavirer, et puis je vais couler, même si les choses semblent aller dans son contraire. C'était l'histoire d'Abraham et de Sarah. Il nous est dit qu'il a été agréé de Dieu, on lui a imputé à justice parce qu'il a cru contre toute espérance. C'est prendre Dieu au mot. Voilà. Tu as dit, Seigneur, eh bien moi je le crois. Je ne veux pas aller chercher plus loin. Je ne veux pas aller plus loin. Toujours dans ce texte, il nous est simplement rappelé, il nous est dit là dans ce passage, et je reviens à l'aumône, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire que c'est vrai pour la prière aussi. C'est vrai pour la prière. Le contraste enseigné est saisissant. En secret devant Dieu, et pour la gloire de Dieu, la main droite et la main gauche. On a besoin de rapprendre dans nos églises cette leçon fondamentale de la droite et de la gauche. Parce que combien on s'est valorisé, on a valorisé des gens qui se sont prêtés à ce que véritablement on sache les choses. Ce qu'ils faisaient, ce qu'ils donnaient, etc., etc. Ce qu'ils pouvaient faire de la démonstration d'un exercice de piété. Alors à cette condition et dans la pureté d'intention, Dieu te le rendra, mais seulement dans cette pureté d'intention. Il va te le rendre, autrement, tu verras rien du tout. Oh, tu vas avoir une récompense, mon ami. Tu vas en avoir une, c'est immanquable. Tu as semé, tu as donné, mais elle sera de la qualité que tu auras voulu. Hein. Tu l'auras, la récompense. Mais quand il s'agit de Dieu, il va te le rendre. Rendra. Comment Dieu peut-il me rendre des choses? Aucune précision du quand il va nous le rendre, et de quelle façon le rendu arrivera, mais pour le fidèle, pour celui qui a un cœur pur, celui qui n'est pas un hypocrite. Une chose importe et suffit, c'est la suivante. Notre Père Céleste n'oublie jamais rien de ce qui est fait par amour, même dans le plus grand secret, dans l'humilité et la modestie. Il te le rendra dans ces conditions. Le disciple vivant dans la promesse ou de cette promesse a déjà, en quelque sorte, on pourrait le dire de cette manière, reçu sa récompense qui n'est autre que la joie, que le bonheur, c'est les béatitudes encore, là on peut dire, d'avoir fait le bien, soulagé et tout simplement pourvu à la peine d'autrui. Mais ça doit nous suffire, sans en vouloir en avoir les dividendes et de dire, eh bien Seigneur, tu ne m'oublies pas parce que quand même j'ai fait le bien. Est-ce que nous voulons, quand nous serons morts, avoir, et peut-être là où nous avons habité, eh bien, notre nom sur une plaque, bienfaiteur du quartier, bienfaiteur de la ville, bienfaiteur de l'humanité? Non, bon, voilà. C'est pas ça, l'évangile. C'est pas ça. Vous savez, on a vraiment besoin d'aspirer à ce qui est petit et ce qui est humble. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'on n'est pas grand-chose, hein. Moi, c'est comme ça que je considère les choses. On n'est pas grand-chose, on n'a que la grâce de Dieu pour nous. Pourquoi te glorifies-tu que tu n'aies reçu, dit Paul aux Corinthiens. On comprendra les choses de l'autre côté, vous savez, quand on arrivera Il y a des gens qui auront brillé sur cette terre, et des enfants de Dieu, ou des pasteurs, ou tout ce que vous voudrez, des gens hein, qui auront brillé, et qui brilleront pas, ils seront sauvés, hein, je veux bien croire. Hein. C'est pas une disqualification, mais en tous les cas, ils seront dans l'ombre. Et peut-être que la pauvre veuve du temple, elle sera mise à la première place. Parce que c'est son cœur qui parlera. Et on aura des surprises, je le crois. Alors, ne regardons pas la terre pour se valoriser, de dire, eh bien voilà, j'ai un titre, j'ai une fonction, j'ai ceci, j'ai cela, etc., etc. Non, non, il faut regarder au ciel, et ça nous gardera dans l'humilité. À l'inverse, la récompense des païens faite d'encensement en tout genre. Vous savez ce que, vous connaissez la signification du mot encensement, hein? Vous sentez pas, non? Ça se sent, hein? Surtout que c'est fait pour ça, d'ailleurs. Donc, récompense faite d'encensement, ses bonnes œuvres, selon le formalisme religieux dont Ésaïe nous parle au chapitre 1er, et nous allons lire le texte, et au verset 10 à 17, parce que c'est quand même pas mal. Ça, c'est une sanction contre Israël, l'hypocrisie d'Israël, la routine religieuse, toutes ces choses qui normalement étaient fraîches et bonnes au départ, mais qui sont devenues surannées, qui sont devenues suintantes d'orgueil et de tout ce que vous voudrez. Alors écoutez bien, Ésaïe chapitre 1er verset 5, il est dit ceci, c'est le prophète qui parle de la part de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, et c'est quand même pas n'importe quoi. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre, qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Et ça commence comme ça, et ça commence bien. Dieu dit, je suis rassasié des holocaustes et des béliers de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Je vous ferai remarquer que c'est Dieu qui l'avait institué. Mais là, il n'en voulait plus. Hein. Dieu n'en pouvait plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà ce que dit Dieu. Hypocrisie, formalisme, ritualisme religieux. Ça, Dieu n'en veut plus. Il n'en veut plus, et il le dit à Israël. Parce qu'on peut rentrer dans une... Bon, on est sur les rails, hein, et puis c'est très bien. Non. Ben, c'est ce qui a donné, finalement, le monde des pharisiens, après. Après le retour de Babylone, ouais, ils sont revenus, là, il n'y avait plus d'idoles, il n'y avait plus rien du tout, mais ils sont tombés dans un autre travers. Et pur et les durs intégristes. Ben alors, il n'y a plus de vie. Terminé, fini, terminé, on n'en parle plus. Et nous voyons que Dieu a parlé comme ça parce que finalement la piété, la religion d'Israël, le judaïsme de ce temps était entaché de méchanceté et parfois même de sang. Qui vous a appris à venir avec des mains pleines de sang, dira-t-il. Et vous savez mes frères et sœurs, si nous voulons être exaucés, je crois que nous avons avant de demander ce que nous avons à demander au Seigneur, que véritablement il nettoie nos cœurs, plus de critiques. Plus de jugement au milieu de nous, mais de l'amour, de la charité et de la bienveillance. Autrement, on peut toujours se fouiller. Vraiment de grâce. Le Seigneur nous le demande. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. On va faire les choses dans les formes, il va y avoir une liturgie, ça va être bien sur les rails, mais plus rien. Non. Parce que là, il n'est pas question d'autre chose, hein. Il est question de comportement intérieur. Il n'est pas question de forme, hein. Elles sont sanctionnées, les formes, mais il est question d'un état de cœur. Je dirais, il est question des fruits. Et Dieu, quand il voit les fruits, alors à ce moment-là, Dieu se réjouit. Culte rendu à Dieu à la manière de Caïn. Vous connaissez M. Caïn ? Oui ? Culte qui devient une aberration, aussi vrai que Jésus nous le dit ainsi. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient, ou quiconque vous fera... Mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi, parce que les choses sont bien établies, parce qu'ils n'ont ni connu ni le Père, ni moi. Parce que si on connaît Dieu et si on connaît le Fils, à ce moment-là, on a les sentiments du Père, on aura les sentiments du Fils, à l'intérieur de nous-mêmes. Et on en est arrivé quelquefois dans les églises dans l'histoire, et peut-être dans l'église d'aujourd'hui, à cause d'une conception, d'une vision extrêmement étroite, finalement, on ne fait pas du bien, on fait du mal. Et on en oublie le fruit. Et le fruit est primordial, mes frères et sœurs. Moi, je préfère me tromper en aimant que en écrasant. Parce que là, j'aurai des comptes à rendre. Ces folies rituelles illusoires peuvent prendre également la forme d'une pseudo-spiritualité faite de légalisme, de mysticisme et d'ascétisme, dont la pratique est exprimée dans Colossiens chapitre 2, verset 18, où Paul dira que personne sous une apparence d'humilité, alors on retombe un peu dans ce que nous avons vu, d'hypocrisie, et par un culte des anges, c'est-à-dire une inspiration qui nous met un petit peu là entre ciel et terre, où nous ne sommes plus tellement en connexion avec la réalité, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. On en a parlé dimanche matin, vous savez, des rêves et des visions, et on a encore deux leçons à prendre sur la question. On n'a pas fini. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, et cela trahit une fausse démonstration de l'amour. Ça paraît de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. C'est comme le Canada Dry, si vous connaissez. Ce n'est pas de l'amour, ça paraît de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour, parce que le véritable amour, il se goûte et il se délecte dans la pratique. Parce qu'on peut toujours dire à quelqu'un « je t'aime » et puis après, si véritablement on l'aligne, c'est pas... Ou encore, un petit peu en prolongement de cette pensée, dans 2 Colossiens chapitre 2 verset 23, « ils ont en vérité une apparence de sagesse », c'est vrai, on se dit « il n'y a pas un poil qui dépasse, excusez-moi ». En ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de consécration et autres, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc on en revient toujours, finalement, c'est le moi, c'est l'ego qui est satisfait, et c'est de la vanité. Voilà, je termine. L'aumône, je reviens, geste de libéralité du cœur qui trouve sa vraie valeur et sa récompense, et d'ajouter avec Paul ces paroles sublimes, parce qu'elles viennent du cœur même de Dieu, quand il est écrit ceci, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et c'est vrai, mes frères et sœurs, Jésus met au cœur de son enseignement l'amour. L'amour, et encore l'amour, la grâce dans l'amour du Seigneur. Si j'ai reçu la grâce, alors je dois faire grâce aux autres. Alors peut-être qu'on va penser que je suis faible. Eh, peu importe. On peut penser que je suis aveugle. Peu importe. Mais une chose qui est, en tous les cas, importante pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons en accord avec les sentiments de Dieu, avec la volonté de Dieu, et que nous ayons véritablement ce correspondant comme Dieu est. Et il nous l'a dit, on l'a vu l'autre jour, « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Seigneur, je suis loin d'être parfait, mais je veux tendre à te ressembler quand même. » Nous en arrivons, puisque j'ai parlé, je conclue sur l'aumône, je conclue aussi sur la prière. Nous en arrivons donc à la prière. C'est la même pédagogie, puisqu'il nous est dit à un moment donné, quand nous voyons cette parole, en priant, etc., etc. Donc, c'est la même pédagogie comparative. Il existe la vraie et la fausse prière. Et avant de conclure, pour rentrer après dans la prière royale, on le verra la fois prochaine, nous voyons simplement ce qu'elle n'est pas, ce que n'est pas la prière, selon le principe de l'Évangile. Jésus pose trois conditions essentielles, simples. Quelle est la motivation, quelle en est la motivation spirituelle? Le verset 5 nous dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier, debout, au coin des rues, etc., pour être vus des hommes. » Il ne s'agit pas d'une défense de prier en public, au contraire. L'Écriture sainte l'encourage, dans Matthieu chapitre 18 au verset 19, il nous dit, « Je vous dis encore que si deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque sur la terre, eh bien elle lui sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Donc nous voyons que c'est pas interdit. La prière publique. Mais attention comment nous faisons les choses. Par contre, ce que Jésus stigmatise dans cette démarche de prière, c'est encore et toujours l'exercice pour en être vu et entendu par les hommes plutôt que par Dieu. Alors une chose qui est claire, c'est que si nous sommes bien entendus des hommes, Dieu ne nous écoutera pas. Mais vaut mieux quand même le contraire, me semble-t-il. Il s'agit là d'une prière de parade parce qu'elle n'accorde pas à Dieu ce qui lui est dû. On pourrait dire que la foi est détournée, voire considérée comme une insulte, oui, comme une insulte faite au Seigneur, auquel on est censé de s'adresser et qu'on ne pense pas à lui, on pense surtout à ceux qui nous écoutent. Donc c'est une insulte. Parce que quand je m'adresse à quelqu'un, au moins je le regarde et je porte attention. Mais combien, si je suis un hypocrite, et combien si je fais une démonstration de mon beau parler, de mon élocution, de ma rhétorique, etc., etc., en disant « je prie, je me sers de Dieu pour prier », mais c'est pas avec Dieu que je prie surtout pour que les autres m'entendent. Alors je dis que c'est une insulte à celui auquel on s'adresse. C'est comme si je parlais à quelqu'un en lui tournant le dos. Tout simplement. Prier ainsi, c'est se servir de Dieu à des fins dévoyées, pour se faire admirer au titre d'une piété qui n'en est pas une, puisque c'est plus la foi à ce moment-là. Hein ? C'est simplement un rapport d'échange entre les hommes qui sont autour de moi. C'est se faire Dieu soi-même pour que les autres, quelque part, me reconnaissent et puissent porter attention sur moi. C'est se faire Dieu soi-même et de faire de Dieu notre serviteur. On se sert de Dieu à notre fin, pour notre service, à la satisfaction de notre vanité. La prière peut être la meilleure armure, vous le savez, elle peut être la meilleure armure et la pire des parures. Puisqu'il est question d'hypocrisie, il est question de paraître. La pire des parures, quand il y a ce genre de comportement, c'est un déguisement ou un travestissement pour ravir à Dieu la gloire qui lui revient à lui seul. Que Dieu nous bénisse ce soir. On verra la prochaine fois la prière royale. J'ai dit là, en quelques mots, ce qu'elle n'est pas. Maintenant, on va voir ce qu'elle est. Et il y aura beaucoup de choses à dire. On va découvrir tous les noms de Dieu la prochaine fois. Vous allez voir, ils ont un sens. Alors que Dieu nous bénisse. Nous allons prier simplement. Et nous allons demander à Dieu sa grâce, que nous soyons des hommes de l'Évangile, avec l'esprit de l'Évangile, et que nous soyons renouvelés dans notre entendement. Et pour nous, eh bien, ce qui est important, c'est que nous vivions dans l'esprit de la lettre, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Que Dieu nous donne sa grâce. Inclinons-nous quelques instants. Nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que nous croyons que tu as fait, Seigneur, en effet, de ce sermon sur la montagne, eh bien, en quelque sorte, la forteresse qui est bien là pour, en effet, l'Église, qui est une maison, qui est un édifice, eh bien, tu l'as mis à l'entrée pour que nous sachions que dans le royaume de Dieu, eh bien, les choses sont comme ça. Les choses ne sont pas comme dans le monde. Et nous n'avons pas à transporter ce qui est dans le monde avec des habitudes, avec un ritualisme, avec un formalisme, avec des routines, avec un fonctionnement qui n'a plus rien à voir avec, eh bien, ce que le monde pratique. Sur le plan religieux. Là, tu nous demandes véritablement et tu pousses notre raisonnement, notre méditation, tu nous provoques quelque part, Seigneur, pour que nous comprenions qu'en effet, Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Ce qui est important, ce n'est pas de paraître, c'est d'être. Ce qui est important, ce n'est pas tant de faire, ou si nous le faisons bien, à la gloire de ton nom, mais c'est véritablement que tes sentiments soient vraiment en nous, que ta volonté nous imprègne complètement et totalement. Seigneur, dans le nom de Jésus, fais grandir ton peuple. Aide-nous, Père éternel, à avoir une attitude qui soit conforme avec ces paroles que tu nous laisses dans l'Évangile. Merci pour le sermon sur la montagne. Merci pour ces préventions, Seigneur, parce que nous savons que la nature humaine, dans sa faiblesse, et puis dans ce goût prononcé, Seigneur, eh bien là, du succès, dans ce goût que nous pouvons avoir d'être reconnus, d'être encouragés, applaudis ou toutes sortes de choses. Alors s'il y en a un qui doit être glorifié, c'est toi, mais pas nous. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Délivre-nous de l'hypocrisie. Délivre-nous, Seigneur, en effet des fausses apparences. Délivre-nous, Seigneur, de ce que parfois, eh bien, Père éternel, nous sonnons de la trompette et que nous sommes là des chrétiens de parade. Nous voulons être des chrétiens de la réalité. Seigneur du cœur de Dieu, et nous te bénissons et nous te remercions. Bénis nos frères, et puis, Seigneur, s'il y a une prière que nous pouvons ajouter, Seigneur, remplis-nous de ton amour. Et ça nous aidera à comprendre les autres. Ça nous aidera à faire les choses. Ça nous aidera, Père éternel, à être comme toi tu es. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.